Martin, ça ne nous rajeunit pas.
Hein. Mais tout va bien. Nous sommes dans la joie, elle est toute petite. Je suis 33 fois plus lourd qu'elle. Je vous laisse calculer et imaginer. Ça ne nous rajeunit pas, ça nous...
Ça
lèche pas, voilà. Non plus. Voilà, enfin, nous sommes vraiment dans la joie, et c'est vrai que d'avoir Liv et Jasmine avec nous ce matin, ces petites filles, c'est toujours une joie de voir la vie s'éveiller dans un monde qui parfois nous parle beaucoup de mort. Voilà, la vie est là, la vie du Seigneur est bien présente et il nous donne la vie éternelle. Et ce matin, je vais vous parler de personnes qui ont bien des problèmes avec leurs mains, avec leurs pieds, avec leur corps, puisqu'il s'agit de lépreux. Et nous allons voir que pour eux aussi, le Seigneur est venu donner la vie. Alors voici le texte que je vous propose de méditer. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Alors voilà un récit évangélique qui devrait nous mettre à l'aise ce matin, parce qu'il nous fait comprendre que nous avons bien fait de venir au culte pour rendre gloire à Dieu à pleine voix. Nous sommes réunis pour vivre ensemble l'attitude de reconnaissance du 10e lépreux. Quand j'étais enfant, et je pense que Claire et Guillaume font pareil avec Liv et Jasmine, moi, quand j'étais enfant, ma maman m'apprenait à utiliser mes lèvres et ma bouche et mon cœur aussi pour dire merci. Ah, puis elle était exigeante là-dessus. Elle était très attentive à cela. Parfois, ça m'agaçait d'ailleurs, mais elle avait raison. Mais croyez-vous que Luc nous a laissé cette histoire des 10 lépreux pour nous apprendre simplement à dire merci à Dieu? C'est important d'exprimer au Seigneur notre reconnaissance. On l'oublie trop souvent, on a tendance à demander, à demander, à demander. Mais dans ce texte, frères et sœurs, il y a bien plus qu'une leçon de politesse. Il y a un appel à vivre en Christ dans la joie du salut. Alors, prenons le temps de faire quelques présentations. Le texte nous dit que Jésus faisait route vers Jérusalem, qu'il passa à travers la Samarie et la Galilée. Vous voyez que Luc commence par un peu de géographie. Il précise que Jésus marche vers où ? Vers Jérusalem, vers le lieu où s'accomplira sa mission, vers Jérusalem où il sera crucifié et où il ressuscitera. C'est un voyage difficile pour lui, un voyage angoissant, lourd de menaces, mais il est en marche pour nous sauver. Pour sauver qui ? Non pas les justes, mais les pécheurs. Il passe par la Galilée. La Galilée, c'est une région à l'époque touché par les influences païennes, séparé de la pieuse Judée. Il passe aussi par la Samarie, où habitent des gens que les Juifs considéraient comme des hérétiques, des malcroyants, et qu'ils n'aimaient pas. Et c'est au milieu de ces diverses personnes, loin de Dieu, en tout cas, c'est ce qu'on disait, que le salut est en marche. Il est en marche, Cyril, s'il te plaît, il est en marche aussi pour les malades et les impurs. Et les lépreux en sont l'expression la plus repoussante à l'époque. En ces régions mal sentantes, Jésus rencontre les plus pauvres, les plus rejetés, les plus impurs. Le livre du Lévitique au chapitre 13 nous dit que le lépreux doit crier « impur, impur ». Il habite à part et établit sa demeure hors du camp, précisait la loi de Moïse. Son aspect répugnant, misérable, suffisait à le tenir à l'écart. Jésus rencontre ici des lépreux, obligés de rester en dehors du village, et qui, conformément à la loi, le texte nous le dit, restent à distance. Eh bien nous aussi, avec ces lépreux, nous sommes porteurs de nos impuretés, de nos infirmités, de nos faiblesses, de nos fautes. Et nous venons, nous aussi, ce matin, implorer la miséricorde du Seigneur. Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et quand les lépreux avaient la chance d'être guéris, leur guérison devait être constatée par les autorités religieuses pour qu'ils puissent être réintégrés dans la société. Un examen, avec tout un rituel, était prévu par la loi de Moïse pour constater la purification du lépreux et exprimer son absolution, parce qu'on pensait qu'il était ainsi à cause du péché qu'il y avait en lui. Si cela vous intéresse, vous pourrez vous plonger à la maison sur le 14e chapitre du livre du Lévitique qui vous explique tout ce qu'il faut faire pour réintégrer un lépreux. Pour Jésus, il est important que ces pauvres gens puissent bénéficier de cette reconnaissance publique et puissent reprendre une vie normale. Nous observons donc dans ce récit, comme dans bien d'autres endroits de l'évangile de Luc, Luc est toujours très soucieux de cela, nous observons que Jésus prend soin des plus pauvres, des plus petits. Il se soucie de leur guérison, de leur bien-être, de leur place dans la société. Et nous recevons donc un appel de sa part à suivre nous aussi son chemin de sollicitude et de compassion pour les plus démunis. Et si nous faisons partie nous-mêmes des plus démunis, accueillons par ce récit l'assurance de son regard d'amour et de son appel à placer en lui notre confiance et notre espérance. Cependant, frères et sœurs, la marche de Jésus vers Jérusalem nous fait aussi comprendre qu'il a pour ses lépreux et aussi pour chacun de nous un projet beaucoup plus grand que la guérison, que la purification ou que la vie sociale. Il a la volonté de nous sauver. Voyons ce qu'il en est déjà de cette guérison. Vous avez peut-être remarqué que nous sommes ici en présence d'un curieux miracle de guérison. Contrairement à d'autres épisodes, et même qui concernent des lépreux, même dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 5, ici, Jésus ne touche pas les lépreux. Il ne leur dit même pas qu'ils seront guéris. Il leur donne juste un conseil, allez vous montrer au prêtre. C'est tout. et les lépreux s'en vont. Ils partent à Jérusalem. On peut les imaginer déçus, Cyril, s'il te plaît, comme jadis, peut-être vous connaissez cette histoire, du général araméen Naaman, auquel le prophète Élisée avait simplement recommandé, alors qu'il était venu le trouver parce qu'il était lépreux, le prophète Élisée lui avait simplement recommandé de se laver 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. La Bible nous dit que Naaman s'irrita et partit en boudant, en disant « Oh, je me disais, il va sûrement sortir de chez lui, et debout, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il passera la main sur l'endroit malade et délivrera le lépreux. » Et probablement que les 10 lépreux dans notre évangile s'attendaient à un geste de ce genre. Alors, Jésus n'a rien fait. Pourquoi prendre la peine d'aller consulter les prêtres de Jérusalem s'il n'y a pour l'instant aucune guérison à constater? Ils partent pourtant. Et pendant qu'ils y allaient, nous dit le texte, ils furent purifiés. Vous voyez que l'obéissance et la confiance placées dans les paroles de Jésus font déjà entrer dans un processus de guérison. Ça, c'est quelque chose qu'il est important à retenir pour nous aussi. Obéissance et confiance. Ne serait-ce que par la relation que nous retrouvons ainsi avec Dieu. Ici, les lépreux renouent même avec leur attachement à l'Éternel, leur attachement au Dieu d'Israël, puisque Jésus leur demande non seulement de lui obéir à lui, mais d'accomplir pour eux-mêmes ce qui est prescrit par la loi de Moïse. Donc rappelons-nous cette vérité. Quand nous implorons avec insistance, comme nous savons le faire, l'aide de Dieu, l'exaucement, frères et sœurs, réside souvent dans ce qu'il nous a déjà donné. Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. L'exaucement réside souvent dans ce qu'il nous a déjà donné. Et même la simple obéissance à sa parole, paraît peut-être décevant, on aimerait une guérison autrement, mais simplement, l'obéissance à sa parole pourrait déjà guérir pas mal de maux qui empoisonnent notre existence. Vous savez, le Créateur a bien fait toutes choses. Quand on voit nos petits-enfants, c'est tellement évident. Le miracle absolu de la vie. Le Créateur a bien fait toutes choses. Et sa parole, encore aujourd'hui, nous montre le chemin de la vraie vie. Par exemple, l'angoisse, dans une société rongée par l'angoisse. Mais l'angoisse, elle commence à trouver son remède dans la confiance en Dieu, précisément. Les conflits, oh là là, les conflits. Beaucoup d'entre vous en ont connu des terribles, des conflits parfois dans leur famille. Mais les conflits peuvent aussi trouver une résolution dans le pardon inconditionnel que nous demande Jésus. Les violences et les guerres, malheureusement, elles nous entourent aujourd'hui. Mais ces violences et ces guerres diminueront quand les disciples de Jésus mettront en pratique, en commençant par eux-mêmes, la non-résistance évangélique et l'amour des ennemis. La pauvreté et l'injustice disparaîtront quand nous aurons clairement choisi entre Dieu et l'argent. Et quand nous vivrons le partage des premiers chrétiens, et nous pourrions multiplier les exemples. Vous voyez en quoi l'obéissance au commandement de Jésus est déjà largement un début d'exaucement à nos prières. En obéissant à Jésus, les lépreux ont trouvé la guérison. Reconnaissons quand même que dans leur cas, cette guérison est effectivement un miracle, un phénomène inattendu, un phénomène extraordinaire. Le Seigneur a répondu directement à leur prière. Quelle était leur prière ? Jésus, Maître, aie pitié de nous. Le miracle manifeste que Jésus est bien celui qu'ils ont invoqué. Oui, il est le Maître. Il détient la maîtrise, la seigneurie sur toute chose. Il a la puissance de guérir. Et cette puissance, dans ce récit, est la révélation de la gloire de Dieu. Le Maître est aussi celui qui prend pitié. N'oublions jamais ces deux visages de Dieu, le Maître et la miséricorde. Il est celui qui prend pitié. Dans ce miracle s'exprime la miséricorde du Seigneur, son souci, on l'a dit, des plus malheureux. Ce récit nous apprend que en Jésus, c'est Dieu, Dieu en personne, qui tourne son regard, on a parlé des yeux ce matin, les yeux de Dieu, qui tourne son regard vers les plus misérables, et d'abord vers eux. C'est Dieu qui s'approche de nous, c'est Dieu qui se rend présent à nos difficultés en Jésus-Christ. Encore faut-il reconnaître cette présence. Et là, le miracle n'y change rien. On pourrait toujours lui trouver une explication rationnelle au miracle, et on ne s'en prive pas. Et puis après tout, les 10 lépreux n'ont pas été guéris en présence de Jésus. Peut-être que c'est la marche qui leur a fait du bien. Gehen ist gesund, on dit en allemand. Marcher, c'est bon pour la santé. Hein? Qui sait ? On peut toujours trouver une explication au miracle. Pour reconnaître l'œuvre de Dieu, que ce soit dans un miracle ou dans les événements les plus ordinaires de l'existence, il faut la foi. Il faut la foi. Et c'est elle qui ouvre les yeux du cœur et de l'intelligence, tient encore les yeux, à la lumière de Dieu. Jésus a offert aux 10 lépreux l'occasion de découvrir que leur guérison ne venait pas seulement du conseil d'un rabbin, mais que leur guérison venait du Sauveur du monde. On arrive au deuxième miracle, celui du salut. Un seul lépreux s'est ouvert à la grâce. Un seul. Et pour évoquer sa démarche, le récit de Luc est précis, soigné, un véritable chef-d'œuvre. Luc utilise un crescendo dans l'expression, dans l'adoration. C'est comme s'il voulait, à travers le lépreux samaritain, décrire la découverte émerveillé du Seigneur Jésus qui se produit en chaque croyant, qui peut se produire en nous. Il y a tout un chemin de conversion qui est dans ce récit placé devant nos yeux. Après tout, ne sommes-nous pas tous des lépreux samaritains, des impurs, des perdus, indignes de Dieu, mais qui ont reçu le salut dont ils avaient besoin, peut-être même au moment le plus inattendu. Les yeux du lépreux s'ouvrent sur son état. Il était malade et il est guéri. Il était impur et il est purifié. Il était exclu et il est rétabli. Il était loin de l'Éternel et il retrouve l'alliance de son Dieu. Et de plus, n'étant lui-même pas juif, il peut même considérer sa guérison comme une pure grâce de Dieu. Et Luc veut certainement nous le faire sentir. Sa guérison est un don totalement immérité. Totalement immérité. Et ensuite, Luc écrit qu'il revint. Petit verbe, très important. Il revint, il fait demi-tour. Le verbe hébreu à l'origine du mot utilisé par Luc se rencontre souvent dans l'Ancien Testament pour évoquer la conversion, le retour à Dieu. Littéralement donc, le lépreux se convertit. Il change radicalement de direction Pour aller où? Vers Jérusalem? Plus maintenant. Pour aller vers Jésus. Il change de direction pour aller vers Jésus. Et plus rien d'autre ne l'intéresse que de retrouver Jésus. Même plus le temple de Jérusalem, même plus la reprise de son travail et de sa vie de famille, qui était pourtant rendue possible par sa guérison. Le lépreux revient vers Jésus parce qu'il a découvert en l'homme de Nazareth le Dieu vivant, la manifestation du Dieu vivant. Il revint, nous dit Luc, en rendant gloire à Dieu à pleine voix. La louange est devenue plus forte que la supplication du début. Au début, on nous disait qu'ils ont élevé la voix, mais le texte, les traductions françaises ne nous rendent pas tellement compte de ce crescendo. La louange, c'est à pleine voix, avec une grande voix, nous dit le texte. La louange est plus forte que l'imploration, que la prière qui avait été adressée à Jésus au début. Leur intercession, l'intercession des lépreux, exprimait leur misère. La louange du Samaritain est l'expression de la vie nouvelle, l'expression de la joie en Dieu. Et c'est sur cette nouveauté que Jésus met l'accent. Pour Jésus, c'est ça qui est important. Il n'y a que cet étranger, dit Jésus, pour revenir rendre gloire à Dieu. Revenir rendre gloire à Dieu. Se convertir pour glorifier le Seigneur. Vous voyez que ce lépreux n'est pas exemplaire pour sa politesse, mais pour sa louange. Il connaît par la foi en Jésus la joie dont le Seigneur dit ailleurs, dans l'évangile de Jean, qu'elle est parfaite et que nul ne nous la ravira. Le Samaritain guéri est entré dans la vie éternelle. Ah, c'est quelque chose. Il est entré dans la vie éternelle. Pourtant, un juif qui assisterait à la scène trouverait quand même que ce lépreux exagère, qu'il a une étrange manière et même une scandaleuse manière de rendre gloire à Dieu. Il pourrait penser que ce Samaritain, finalement, aurait quand même mieux fait de poursuivre son chemin avec ses compagnons et d'aller trouver les prêtres du temple de Jérusalem. C'est là qu'il faut adorer. Parce que l'homme guéri, nous dit Luc, se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Il prend la posture de l'adoration. L'adoration! Il rend à Jésus l'honneur qui est réservé à Dieu seul. Waouh! Ben oui, le lépreux a compris que Jésus n'est pas seulement un maître, un rabbin, un conducteur spirituel. Jésus est le Fils de Dieu. Pour lui, avec Jésus qui l'a guéri, c'est bien Dieu lui-même en Jésus, qui s'est rendu présent pour le sauver. Et on voit que toute la prière chrétienne, la prière qui est la nôtre ensemble ce matin, s'exprime dans les attitudes de ce lépreux. On trouve dans ce récit l'intercession. Jésus, aie pitié de nous. On trouve la louange. Il rendit gloire à Dieu. On trouve l'adoration. Il se jeta le visage contre terre. Et on trouve l'action de grâce. Il se jeta le visage contre terre en lui rendant grâce. Et cette dernière expression dans le texte du Nouveau Testament évoque littéralement l'Eucharistie. C'est le même mot qui est utilisé dans le texte. Il n'est pas impossible que ce soit une allusion de Luc à la scène. Alors, en la célébrant chaque dimanche, ou presque, puisqu'aujourd'hui nous ne la vivrons pas, nous entrons dans la même attitude de reconnaissance, d'action de grâce, pour notre salut pleinement reçu en Jésus. Nous rendons grâce pour ce salut que nous recevons chaque fois à nouveau en partageant le pain et le vin de la scène. Jésus constate et se réjouit de ce second miracle. Le lépreux samaritain n'est pas seulement guéri, il est sauvé. Relève-toi, dit Jésus, va, ta foi t'a sauvé. On pourrait traduire aussi, vous savez que j'aime bien ça, hein, littéralement, ressuscite et va. C'est le même mot. Ressuscite et va. La foi du lépreux ne l'a pas seulement réintroduit dans une existence normale. Luc voit plus loin, beaucoup plus loin, et il nous le fait bien comprendre à travers les paroles de Jésus. En se tournant vers le Christ, le Samaritain est vraiment entré dans la résurrection. Dans la résurrection. Et alors, on comprend, frères et sœurs, pourquoi il était si important que Jésus guérisse ces lépreux. Ce n'était pas seulement par pitié, sinon pourquoi ne guérirait-il pas tous les lépreux et même tous les malades? Ça nous arrangerait bien certaines fois. Hein. Ce n'était pas seulement pour manifester sa puissance. Ce récit, frères et sœurs, est une annonce en direct, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, de l'Évangile. L'Évangile rendu visible. Ce récit proclame le salut en Jésus-Christ et ses effets sur notre vie. Il rejoint les situations qui sont les nôtres et décrit comment elles sont transformées par la rencontre du Seigneur. Frères et sœurs, nous ne serons pas tous guéris de nos maladies physiques par un miracle, nous le savons bien. Même dans les évangiles, les miracles de guérison gardent un caractère exceptionnel, et c'est ce qui fait leur force d'ailleurs. Et de toute façon, une guérison ne change pas complètement l'existence. Le Samaritain guéri retombera certainement malade un jour, il aura peut-être le coronavirus, on ne sait pas, et il connaîtra l'affaiblissement qui conduit à la mort. Par contre, nous sommes tous destiné à être radicalement transformé par la rencontre du Seigneur. Ce que Jésus partait accomplir à Jérusalem, quand il a croisé ses lépreux, eh bien, il l'a fait pour nous tous. Il a pris sur lui nos lèpres, nos impuretés, nos ingratitudes, nos péchés, pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Sur la croix, il s'est chargé de nos souffrances et de nos morts pour nous en délivrer, et cette fois-ci, pour nous en délivrer définitivement. Et parce que Jésus est ressuscité, frères et sœurs, il nous est possible à notre tour de le rencontrer. Lui-même croise maintenant nos chemins de vie pour prendre pitié de nous et pour nous donner part à sa victoire. Et par la foi, nous le reconnaissons à notre tour et nous allons à lui. Nous pouvons nous prosterner devant lui et nous trouvons en lui notre joie. Quand l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Colossiens cette phrase magnifique, « Vivez dans la reconnaissance. » Vivez dans la reconnaissance. Je crois qu'il résume le message de ce récit de l'Évangile. Rendre grâce, rendre gloire, exprime la vie nouvelle en Christ. Ce ne sont pas des mots savants, ce sont vraiment des attitudes qui manifestent la joie d'une existence entièrement donnée à Jésus. Pourquoi donner à Jésus ? Parce qu'elle a déjà tout reçu de lui et elle l'a reconnu par la foi. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Frères et sœurs, vivons ce culte, cette semaine, vivons notre vie dans la joie que Jésus fait abonder dans notre existence. Amen.
Amen.
Et nous pouvons prier. Donne-nous, Seigneur, au plus intime de nous-mêmes, par la grâce de ton esprit, de revivre ce qu'a vécu ce lépreux. Oui, nous t'implorons ce matin. Tu connais toutes les misères de nos vies. Et nous te redisons, aie pitié de nous, aie pitié de moi. Seigneur, nous entendons ton appel à te suivre, à t'obéir, à t'aimer. Et nous te demandons l'élan pour repartir, pour partir dans la joie de t'obéir, dans la joie d'être tes disciples. Nous voyons ce lépreux qui a fait demi-tour. Il a tout laissé pour revenir aux pieds de ton Fils. Nous aussi, Seigneur, nous te demandons de fortifier nos désirs de changer de vie. Nous te demandons de nous convertir toujours à nouveau pour que ce soit toi seul qui demeure notre seule richesse, notre joie, la source de notre salut, de notre vie nouvelle. Et ce lépreux s'est jeté à tes pieds. Il rendait gloire à Dieu. Il disait merci. Donne-nous, Seigneur, des cœurs joyeux. Mets la louange, Seigneur, dans nos lèvres, dans nos cœurs. Apprends-nous à vivre dans la reconnaissance, comme l'apôtre Paul le demandait à ses amis de Colosse. Seigneur, tu vois tout ce qui nous pèse. Rends-nous plus légers, Seigneur, par la joie que nous pouvons trouver dans ton pardon, dans ta présence, dans tes promesses, dans tes commandements, dans l'avenir que tu mets devant nous, cet avenir d'éternité, de joie éternelle en ta présence. Amen.